J'aimerais lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, une portion de ce récit où les pèlerins d'Emmaüs vont à la campagne, comme on avait lu. C'est Luc 24, et je vais lire à partir du verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié ? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses, comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et c'est vrai que nous les hommes, nous sommes durs d'oreilles et nous avons du mal à croire à ce que Dieu dit. Et le Seigneur a fait souvent ce reproche à ses propres disciples, hein, ceux qui l'ont connu, qui l'ont entendu, qui ont vu ces miracles. Alors imaginez nous qui sommes 2000 ans plus tard, nous avons du mal à croire. Ici, les disciples avaient quasiment perdu tout espoir. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un espoir et d'être déçu. Quand on n'a aucun espoir, on n'est pas déçu. Mais quand on espère, on attend, et la chose n'arrive pas, même l'inverse arrive, on est particulièrement amer. C'était le cas de beaucoup de disciples. Ils avaient mis toute leur foi en Jésus. Ils ont dit, c'est lui le Messie, il n'y a pas de raison. Et il accomplit les prophéties messianiques, il fait des miracles que nul autre n'a fait. Il parle comme nul autre n'a parlé. C'est lui. Et ils l'ont vu aller sur la croix, ils se sont dit, ça y est, il va sortir de la croix, il va descendre, il va leur dire, il va leur montrer qui il est. Et ils ont attendu, et Jésus est mort sur cette croix. Ils se sont dit, bon, il est mort, il va se relever, il est juste évanoui. Et puis on l'a amené au tombeau et il était toujours mort. Ça faisait le troisième jour qu'il était mort et là leurs espoirs étaient fichus. Tout était par terre, l'espoir déçu. C'est dur de remonter la pente après ça. Et c'est vrai que si Jésus était resté dans la mort, ben, il ne serait pas le Messie, il ne serait pas le Sauveur. Ce serait un pauvre type, comme on dit. Une sorte de Martin Luther King. Hein. Il a prêché la paix, il a fait du bien et puis il est mort parce que les hommes sont méchants et voilà, c'est triste. Pour beaucoup de gens, Jésus est comme ça. Hein. Mais tout le Nouveau Testament dit autre chose. Il dit qu'il est ressuscité. C'est l'apôtre Paul qui réfléchit dans son épître aux Corinthiens, le chapitre de la résurrection, c'est le chapitre 15 de sa première épître. Et il réfléchit si Jésus n'était pas ressuscité. Je lis 1 Corinthiens 15 à partir du verset 14. « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. » C'est-à-dire vide, n'a aucun sens. « Il se trouve même, dit Paul, que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu, qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si Christ n'est ressuscité, la foi chrétienne n'a aucun sens, la foi est vaine. Les apôtres sont des menteurs, des fieffés menteurs, franchement. Ils ont proclamé partout, il est ressuscité. Ce n'est pas qu'on doit adapter le christianisme en disant, bon, il y a des bonnes choses dans la Bible, mais alors les miracles, non. Là, je rejette, ce n'est pas possible. Mais il y a les bons enseignements. Non, vous ne pouvez pas faire le tri. Vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit. La Bible dit qu'il y a des miracles et elle dit aussi qu'il y a des enseignements magnifiques. Les paroles de Jésus sont extraordinaires. Mais soit Jésus est un menteur, soit les apôtres sont des menteurs, soit ce qu'ils disent est la vérité. Et Jésus est vraiment ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ, ça change tout. S'il est vraiment ressuscité, tout peut changer. Souvent, on se demande, est-ce qu'il y a une solution au mal? Et on pense au mal sur la terre, mais on peut vite penser au mal dans ma vie. Le mal qui est plus fort que moi, qui m'entraîne vers le bas, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que ça peut changer? Est-ce que je peux changer? Plus on vieillit, plus on se rend compte que c'est difficile. Oh, quand on est jeune, on est plein de fougue. On dit, oui, je vais changer, t'inquiète pas. Mais plus on s'installe dans la vie, plus on vieillit, plus on devient dur. Et on peut devenir vraiment cynique. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, je voulais croire au bien absolu. Je voulais croire en l'amour, je voulais croire en la justice, comme beaucoup de jeunes. Mais j'ai vu les gens religieux qui sont censés nous montrer l'exemple et le chemin de l'amour, de la justice, être parfois pire que les incroyants. Et je les ai vus de près. Et j'ai dit, si c'est ça, Dieu... Si c'est ça, là, on me dit c'est la religion de Jésus-Christ, mais je n'en veux pas. Regardez l'hypocrisie, regardez la pédophilie, regardez ces actions abominables. Je n'en veux pas. Dieu n'existe pas, Jésus-Christ n'existe pas. Et ayant rejeté toute foi absolue en un Dieu, je suis devenu cynique. C'est-à-dire, il n'y a rien de vrai dans la vie. Il n'y a rien d'important. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de vérité. Vis ta vie, deviens un bon matérialiste. Pense à toi, les autres, ils passent après, et te fais plus de soucis. Ne pense plus à tout ça, tu te fais du mal pour rien. Mais c'était plus fort que moi, il y avait ma conscience. Mais où est la justice? Où est la vérité? Où est l'amour? Est-ce que ça se trouve? Et j'ai mis ça de côté pendant des années. Je suis devenu un athée complet, jusqu'au jour où j'ai été mis face à la Bible, à nouveau. Et à des chrétiens qui vivaient leur foi d'une façon authentique et sincère. Est-ce que je peux changer? Est-ce qu'il y a un changement? La résurrection de Jésus, ça peut tout changer. Les évangiles nous racontent les faits autour de la résurrection. Les quatre évangiles. Il y a quatre témoignages. Ils nous disent que Jésus a été crucifié et qu'il est mort assez tôt, par rapport au supplice de la crucifixion. Alors le centurion qui gardait les crucifiés, a voulu vérifier qu'il était bien mort. Ce faisant, il a pris une lance et il a percé le côté de Jésus. Dans la région du cœur, probablement, afin de s'assurer qu'il était mort. De l'eau et du sang sont sortis. Jésus était mort. Ils l'ont descendu de la croix. Ce sont deux disciples qui l'ont descendu, qui l'ont mis dans un linceul, ils l'ont porté à la tombe de l'un des deux, qui était pas loin du lieu de crucifixion, parce qu'il y avait un sabbat, il fallait se dépêcher avant que le soleil se couche, de tout finir. Ils ont enveloppé Jésus à la façon juive avec des bandelettes et des aromates. Donc ils ont mis des aromates et ils ont entouré, comme les Égyptiens un petit peu avec les momies, c'était le style oriental de bandelettes, ils ont mis un linge sur son visage et ils ont dit on finira l'embaumement après le sabbat. Le dimanche matin, ce sont des femmes qui sont venues finir l'embaumement. Elles ne savaient pas que les Juifs avaient demandé le sceau romain et une garde romaine pour protéger le tombeau, parce qu'ils avaient peur qu'on vienne voler le corps. Elles ne savaient pas, donc elles viennent au tombeau et elles se disent en marchant, « Ah, j'espère qu'on aura de l'aide pour bouger la pierre. » Parce que le tombeau en Israël, ce n'est pas une tombe, une pierre tombale comme nous, dans un jardin. C'est une grotte avec une pierre ronde que l'on roule devant. Il y a une pente pour que la pierre tombe, hein, quasiment en roulant. Mais quand on voulait l'ouvrir, alors là, il fallait être costaud. Il fallait avoir des cordes et plusieurs hommes, au moins deux hommes costauds. C'est des pierres qui pouvaient peser 500 kilos ou plutôt même une tonne. Donc, ces deux femmes n'allaient pas pouvoir bouger cette pierre. Elles se sont dit, j'espère qu'on va trouver quelqu'un. Et elles arrivent et elles voient la garde romaine là, par terre, en état de choc. La tombe est ouverte et puis il y a deux anges qui leur disent, mais Jésus n'est plus là. Il est ressuscité. Elles sont interloquées. Et elles vont voir les hommes qui étaient cachés dans une maison parce que les hommes avaient peur de se faire arrêter et crucifier aussi. Et elles leur disent, il n'est plus là. Il est ressuscité. Alors ils disent, qu'est-ce que vous racontez encore? Voilà. Et je vais être un peu vulgaire, mais ils ont dû dire, encore les bonnes femmes qui nous racontent n'importe quoi. Vous savez, comme les hommes peuvent être machos, et surtout en Orient, ça y est, elles ont eu des hallucinations, elles nous disent n'importe quoi. Quand même, Pierre et Jean vont vérifier, parce qu'elles avaient l'air sûres d'elles. Et là, ils arrivent et ils voient exactement ce qu'elles avaient dit. La tombe vide, et Pierre rentre dans le tombeau, et il voit les bandelettes posées comme ça, avec les aromates, comme si le corps était sorti à travers. Il voit le linge à côté pour le visage et la Bible dit « et il crut ». Jésus ensuite s'est manifesté à de nombreuses reprises pendant 40 jours. Il s'est manifesté à des femmes, à des hommes, aux disciples dans la maison, aux disciples dehors. La Bible dit à plus de 500 témoins à la fois. Donc il y avait 500 disciples qui étaient réunis et Jésus s'est montré à eux. Ils ont mangé avec lui sur la plage. Thomas ne voulait pas croire. Thomas, un des douze, dit non. Moi, si je ne mets pas les mains dans ces trous, non. Moi, je ne crois pas. Et Jésus s'est montré à lui. Il est venu, il est rentré dans la maison. Et il y avait les disciples et Thomas. Et Jésus a dit, mets tes mains. Regarde, c'est moi. Et il a touché. Et la Bible dit, il est tombé à genoux. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ça, c'est ce que les évangiles nous raconte. Alors, quand on est un peu français, sceptique, rationaliste, sans être français, mais les Français sont forts pour ça, on se dit, c'est beau cette histoire, mais c'est dommage que c'est pas vrai, quoi. C'est une légende, voilà, les chrétiens. Voilà. Ils étaient désespérés, alors ils ont inventé. C'est plus tard l'Église qui a fait toute une histoire. Et on essaye de trouver une explication. Je me souviens, moi, quand on parlait de la résurrection, j'avais deux ou trois arguments, bing, 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 dans ma tête. Comme ça, je mettais ça de côté. Mais le jour où j'ai commencé à considérer chaque élément, un après l'autre, et essayer de donner des réponses, je me suis heurté à un mur. Je n'arrivais pas à expliquer comment la tombe pouvait être vide, comment les gens ont vu Jésus et comment leur vie a été changée. On va dire, mais les femmes se sont trompées de tombeau, par exemple. Sont arrivées le matin, elles ne voyaient pas clair, c'était l'aube, elles ont pris une tombe qui était ouverte, elles ont cru voir des hommes qui étaient là, qui devaient s'occuper de la tombe, et elles ont dit, ça y est, il est ressuscité. Alors, c'est joli comme théorie, mais ça ne colle pas avec le texte où elles avaient vu le tombeau, c'était un tombeau tout neuf, qui était très reconnaissable. Il y avait des soldats devant, donc ce n'était pas n'importe quel tombeau. Elles avaient vu où Joseph avait mis le corps la veille, enfin le vendredi. Donc, elles n'étaient pas bêtes, ces femmes, elles ont bien reconnu la tombe. Alors, il y a une autre théorie qui dit Jésus s'est évanoui. Il est tombé dans le coma, en mort, en expérience de mort imminente. Et puis, dans la fraîcheur du tombeau, il s'est réveillé. Il y a des gens qui sont prêts à croire ça. plus que le récit des évangiles. Mais regardons les choses en face. Est-ce que c'est possible? Quand vous prenez un coup de lance dans le côté, après avoir été fouetté avec le fouet romain, avoir été cloué aux pieds et aux mains pendant des heures sur une croix, est-ce que vous pouvez tomber vraiment évanoui? Je pense que là, si avec le fouet, la croix et la lance, vous n'êtes pas mort, vous êtes extraordinaire, vous êtes Dieu. Mais la Bible dit qu'il a rendu l'esprit, hein, il est mort. Et le soldat a bien vérifié, le soldat, ce n'était pas un disciple, hein, il voulait être sûr qu'il était mort. Et puis, admettons vraiment que Jésus se réveille, mais il serait mort rien qu'avec les bandelettes et les aromates. Il serait mort étouffé. Il n'aurait pas pu bouger. On vous a déjà attaché, vous connaissez quand on faisait les blagues potaches, hein, avec du papier, on vous roule du papier tout autour de vous. Et c'est très dur de se défaire quand vous êtes attaché comme ça. Hein. Imaginez Jésus avec tout ce qu'il a subi, sans manger, sans boire. Non. Alors, on dit, mais c'est les disciples qui ont volé le corps. Ça, c'est la théorie principale. Et effectivement, c'est ce qu'on pense tout de suite. Ben, les disciples, voyant que Jésus avait été tué, ils se sont dit, on va voler le corps et on va faire croire qu'il était ressuscité. Sauf qu'il y avait la garde romaine avec un sceau romain. Le sceau romain, c'était apposé avec de la corde et de la cire. Et celui qui violait le sceau romain était immédiatement mis à mort. La garde romaine, c'était des soldats, des durs à cuire, avec des armes. Ils étaient une dizaine. Et si le sceau romain était violé pendant qu'ils gardaient, c'est eux qui étaient mis à mort. Je peux vous dire, ils étaient motivés, les gars. Il n'y avait pas intérêt à ce qu'on s'approche à 50 mètres du tombeau. Et comment les disciples, les hommes apeurés, cachés dans les maisons, qui avaient tous fui, mis à part Pierre et Jean, et encore, auraient eu le courage d'arriver? D'abord, ils auraient été à 20 mètres des soldats, ils auraient dit, hop, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'ils auraient fait avec leurs poings? Ils auraient combattu? Qu'est-ce qu'ils auraient fait contre une garde romaine? Et puis, un jour ou l'autre, on aurait découvert le corps. S'ils avaient volé le corps, c'est certain qu'il y aurait eu une vénération de ce corps. Les hommes vénèrent toujours les objets. Hein. Ils aiment vénérer les choses. Et ils ont vénéré la croix. Ils ont vénéré des reliques. Pendant le Moyen-Âge, l'Église a fabriqué des centaines de reliques pour que les gens vénèrent des reliques. Mais si le corps avait été gardé par les disciples, il y en a un qui l'aurait un jour sorti en disant « C'est là, c'est ça son corps !» Et tout le monde serait venu adorer son corps. Mais personne n'a jamais parlé du corps de Jésus. Il a disparu. La tombe est vide pour toujours. D'ailleurs, les historiens qui ont étudié le cas de la résurrection ont dit « Nous, on ne peut pas parler de résurrection, nous sommes des historiens, c'est du domaine surnaturel. » Par contre, une chose dont on est sûr, c'est que la tombe était vide. Et on ne sait pas pourquoi. On pourrait dire, mais ce sont les Juifs qui ont volé le corps, les ennemis. Mais pourquoi auraient-ils volé le corps? Ils avaient tout intérêt à ce que le corps reste dans la tombe. Et puis, il y a d'autres choses qu'il faudrait expliquer avec la résurrection. C'est qu'après que Jésus se soit montré vivant pendant 40 jours, Saul de Tarse, qui était un ennemi des chrétiens. C'était un pharisien qui avait du Sanhédrin, des lettres pour arrêter tous les juifs qui croyaient en Jésus. Et il les faisait mettre à mort. Il était là quand le premier martyr, Étienne, a été lapidé sur place. Saul de Tarse, l'ennemi farouche, l'ennemi total. Et il raconte qu'il a vu Jésus-Christ ressuscité, qui l'a arrêté sur sa route de Damas. Il était à cheval, il est tombé de cheval, et il a dit « Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu ?» Et il a entendu cette voix, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il est devenu chrétien du jour au lendemain. Il est devenu un des apôtres les plus fidèles, les plus entiers. Il a été lapidé, arrêté, emprisonné, et finalement décapité à Rome pour sa foi. Comment expliquer que les frères de Jésus, Jésus avait des frères et des sœurs selon les évangiles, qui vivaient à Nazareth. Ils ne croyaient pas en lui, disent les évangiles. Et c'est vrai que c'est dur, vous avez votre grand frère, il était l'aîné, et qui vous dit un jour, à 30 ans environ, je suis le Messie. Écoute, c'est vrai que tu étais un garçon, un enfant sage, tu as toujours été impeccable, on n'a jamais vu de. Tu n'as jamais dit une bêtise ni rien, mais écoute, là, c'est trop. Non, t'es pas le Messie, t'es notre frère, c'est tout. Et ils avaient du mal à croire. Sauf qu'après la résurrection, on les retrouve, notamment Jacques, frère de Jésus, parmi les disciples. Comment se fait-il qu'après la crucifixion, Jacques devienne un disciple de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé d'attitude? Si ce n'est que Jésus lui est apparu ressuscité. Les disciples éparpillés, découragés, apeurés, d'un seul coup, le 50e jour à la Pentecôte, ils se lèvent et ils prêchent la résurrection. Si ils avaient inventé cette histoire, où est-ce qu'ils auraient prêché la résurrection? Mais le plus loin possible de Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem que tout s'est passé. C'est à Jérusalem que Jésus a été arrêté, jugé, crucifié, enterré. C'est pas là qu'il fallait prêcher. Ils auraient prêché, je ne sais pas moi, hein, en Irak, en Syrie, en Europe, n'importe où. Mais le premier message qu'ils ont fait, c'était dans la ville même où Jésus avait été crucifié et enterré. Et qu'est-ce que Pierre a dit devant des milliers de Juifs réunis? Jésus est ressuscité. Pierre qui avait renié Jésus, Pierre qui avait fui, il affronte la foule de Jérusalem. Si c'était un canular, si c'était une escroquerie, mais les gens auraient crié, ils auraient dit, tais-toi, va, rentre chez toi, escroc! On aurait eu des témoignages dans l'histoire, hein, d'historiens qui auraient dit, bien sûr, nous savons que c'est un mensonge pieux, que la résurrection n'a jamais eu lieu. Il n'y a aucun témoignage, même les évangiles apocryphes qui ont été écrits un peu plus tard, ne dénoncent jamais la résurrection. Tout le monde est d'accord, Jésus est ressuscité. Comment expliquer la joie nouvelle de ces disciples? Leur courage! Ils ont été tout de suite arrêtés, battus, mis en prison. Dès qu'ils sont sortis, ils ont recommencé. Jésus est ressuscité. Ils rendaient témoignage avec force de la résurrection de Christ. Quelle était la source de ce changement? Ces disciples, incrédules, timides, apeurés, d'un seul coup, ils deviennent courageux. Et ils sont tous, sauf Jean, morts en martyrs, hein, pour leur foi. Jusqu'à la mort, ils ont déclaré que Jésus était vivant, qu'il était leur sauveur, leur Seigneur. Et puis ça ne colle pas avec l'éthique des disciples de Jésus-Christ. S'il y a une chose qui est particulière avec les chrétiens, disciples de Christ, c'est qu'ils n'aiment pas le mensonge. Ils ont appris avec Jésus à ne pas mentir. De baser votre foi, votre vie sur un énorme mensonge, que Jésus est ressuscité alors que vous savez bien qu'il est resté dans la tombe, ça peut. Il y a certaines personnes qui arrivent à le faire, hein, qui se convainquent, oui, finalement il est ressuscité. Mais autant de gens, des gens droits, des gens qui prêchaient la droiture, la vérité, la justice, la sainteté, l'amour, à un moment ils auraient dit non, tout ça c'est faux, j'avoue. Mais ils ont tous tenu jusqu'à la mort. Comment expliquer ces choses? Comment expliquer cette tombe vide, ce changement, ce bouleversement dans les vies? La puissance des miracles ensuite qui ont été apportés, hein. Les apôtres faisaient des miracles extraordinaires, les gens étaient guéris. À Jérusalem, il y avait ce mendiant là depuis des années devant le temple. Et il mendiait, il était paralysé. Et donc quand on était handicapé à cette époque-là, on vivait de mendicité, on ne pouvait pas travailler, il n'y avait pas d'aide sociale, vous étiez mendiant. Et Pierre et Jean vont au temple pour prier, ils le voient, et l'homme dit, donnez-moi de l'argent s'il vous plaît. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé, non seulement il s'est levé, mais il a fait des bonds après. Il a sauté de joie et il criait partout, je suis guéri, au nom de Jésus, j'ai été guéri. Au point que les autorités se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça recommence, on a tué Jésus et ça recommence. Il va falloir maintenant s'occuper de ses disciples. Et c'est comme ça que l'évangile s'est répandu dans toute la Judée, dans toute la Galilée, dans tout Israël et dans le monde entier. En 3 siècles, ça a rempli le monde, même en une génération déjà. Comment expliquer cela? les vies changées. Comme dit Jésus, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, c'est le signe que c'est le Messie, que c'est le Sauveur, qu'il est ressuscité. Alors si Jésus est vraiment ressuscité, si c'est ça la conclusion, ça peut tout changer dans ma vie. Voyez-vous, on peut croire en un personnage historique qui est mort. On peut dire, ah, Platon, c'était un grand philosophe, Socrate aussi. Je crois en lui. Napoléon, c'était un grand général, un grand chef. Il nous a donné le code civil, entre autres. Tel pape ou tel personnage historique, ah oui. Mais ça ne change pas votre vie fondamentalement. Mais si Jésus-Christ est vraiment le Seigneur ressuscité des morts, ma vie ne peut plus être pareille, parce que ça veut dire que la mort est vaincue. S'il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'on va tous mourir. Il n'y a personne encore qui a trouvé le moyen de ne pas mourir. C'est un fait absolu. On peut être sceptique, rationaliste, à mort, c'est le cas de le dire, on va mourir. Mais il y a une réponse à la mort, c'est la résurrection de Christ. La mort n'est pas cet ennemi final. Les existentialistes ont réfléchi sur la mort, ils ont dit, mais c'est, la vie est absurde. On a la vie, on a plein de potentiel, on fait plein de choses, et puis, voilà, on meurt chaque fois. La vie est arrêtée, et on meurt, et c'est fini, on ne revient pas. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit que la mort est un jugement sur le péché, mais que Jésus donne la vie, parce que lui-même est ressuscité des morts. Si vous avez ce désespoir dans votre âme, vous dites, je ne pense pas qu'on peut changer, je ne pense pas qu'on peut s'améliorer, je ne pense pas qu'on peut être transformé, pardonné, je ne pense pas qu'il y ait la vie éternelle. Sachez que la résurrection de Christ, ça peut tout changer. Ça a changé tout pour moi. Je ne crois pas en un personnage, je crois en un Dieu vivant qui est là tous les jours de ma vie avec moi, qui a changé mon cœur. J'étais vraiment pécheur et il m'a lavé, il m'a changé, il m'a donné son amour, sa justice. Je ne suis pas parfait, évidemment, mais le changement est tel que je n'aurais jamais pu le faire tout seul, ça c'est sûr. Il y a plein de choses qu'on peut changer, on peut faire un régime pour maigrir, on peut arrêter de fumer ou de boire, mais changer dans votre âme, dans votre conscience, avoir l'amour que vous n'aviez pas avant, avoir la paix que vous n'aviez pas avant, avoir la sainteté que vous n'aviez pas avant, ça ne se fabrique pas, il n'y a pas de régime pour ça. Il n'y a que la foi au Seigneur ressuscité. Mon message ce matin, c'est ne désespérez pas. Ne soyez pas cynique. Ne dites pas, oh, tout ça, c'est... Non. Il y a vraiment un vrai Dieu, un Dieu vivant, qui a ressuscité. Un Dieu vivant qui veut vous faire ressusciter, me faire ressusciter. Un Dieu vivant qui veut nous pardonner, qui nous aime, qui est venu nous chercher, qui est venu mourir pour nous sur cette croix infâme, pour nous sauver, pour payer notre dette. Sur la croix, il a payé notre dette, la dette de nos offenses, de nos péchés. Quelle bonne nouvelle extraordinaire. Je comprends que les disciples étaient fous de joie. Je comprends qu'ils sont allés dans le monde entier. Il fallait que ça se... On ne pouvait pas les retenir. Ce n'est pas les apôtres qui ont dit, bon les gars, allez, on va faire de l'évangélisation maintenant. Alors, 3x3 ou 2x2, vous croyez que c'est ça qui s'est passé? Vous lisez le livre des Actes, mais ils avaient du mal à retenir les gens tellement ils voulaient parler partout. Même la prison n'arrivait pas à les retenir. Pourquoi? Ils avaient cette bonne nouvelle, ce feu. Il est vivant, il est ressuscité, il y a une bonne nouvelle. La mort n'est pas la fin. Alléluia, c'est merveilleux d'avoir cette bonne nouvelle. Est-ce que vous avez cette bonne nouvelle? J'aimerais qu'on prenne ce temps maintenant de s'incliner devant Dieu et faire le point. Comment expliquer ce tombeau vide? Comment expliquer ces hommes et ces femmes qui ont vu Jésus vivant? Des dizaines d'entre eux, l'un après l'autre, des gens sérieux, des gens qui ont donné leur vie pour lui après, des gens qui ont témoigné ouvertement à Jérusalem. Comment expliquer cela, ces témoignages, ces vies changées? Comment expliquer qu'il y ait des vies changées encore aujourd'hui? Qu'il y ait des pécheurs qui deviennent des saints? Qu'il y ait des incrédules qui deviennent des croyants profonds? Qu'il y ait des alcooliques qui deviennent sobres? Des égoïstes qui deviennent aimants? Comment expliquer ces choses? Seigneur, nous croyons que c'est toi qui fais ces choses, que tu es vivant. S'il y a ici quelqu'un qui est comme Thomas un peu, vous avez des doutes, mais vous voulez croire, tournez-vous vers Christ. Ce n'est pas vers une église ou vers moi ou vers quoi que ce soit, c'est vers Jésus-Christ. Il vous appelle ce matin. Il vous tend la main. Il dit « Je suis mort pour toi. Je suis ressuscité. Veux-tu être sauvé ce matin? Veux-tu me recevoir dans ta vie ?» Et la réponse est entre nos mains. Moi, j'ai répondu il y a 30 ans. Et le Seigneur m'a sauvé. Voulez-vous répondre ce matin? Si c'est le cas, est-ce que vous voudriez, par un signe de la main, demander la prière? En disant, moi je veux répondre, priez pour moi s'il vous plaît. Vous levez la main, vous la baissez aussitôt, pour que je puisse la voir et prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce cas ce matin? Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce, et nous voulons encore une fois te louer en ce dimanche de Pâques. Oui, je crois en ta résurrection, je sais que tu es vivant. Je n'ai même pas besoin de me convaincre parce que je le sais, je l'ai vu dans ma vie. Merci Seigneur encore pour les évangiles aussi qui sont ces témoignages fidèles de ce que tu as fait. Et merci de ce que nous avons ce guide de la parole de Dieu pour notre vie de tous les jours. Merci de ce que tu intercèdes pour nous. Tu es vivant, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci de nous protéger, Seigneur, contre les mauvaises pensées, les personnes qui nous veulent du mal. Donne-nous beaucoup de grâce, de pardon et d'amour. Donne-nous aussi de répandre cette bonne nouvelle. Que nous soyons remplis de joie, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus.